bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de reportage sur les ondes de Radio Fil de l'eau. Comme convenu la semaine dernière, aujourd'hui découvrez la seconde partie de l'interview réalisée par les élèves de 6e du Collège Saint-Joseph de Lectoure, interview des deux artistes Nathalie Valette et Hugues Rochette dans le cadre du projet Jardin des Wintaners initié par le PTR Pays Porte de Gascogne et le Centre d'art et de photographie de Lectoure. C'est parti pour cette deuxième partie de l'interview.
Quelles ont été vos sources d'inspiration ?
Pour le projet de Lectoure ?
Oui, par exemple, ou pour d'autres projets.
Alors, de manière générale, on a des lectures qu'on aime bien, des lectures qu'on a avec nous depuis longtemps. Donc, pareil, des livres, des auteurs. Il y en a un qu'on aime beaucoup particulièrement qui s'appelle Élisée Reclus. Et c'est une personne qui vivait à la fin du 19e siècle. Et c'était donc issu d'une famille où il y avait des écrivains, des ingénieurs. Et lui, en fait, il était géographe, dans les premiers géographes. Donc, en fait, il a travaillé sur beaucoup de relevés. Il s'intéressait à la question des montagnes, créer des sentiers. Et notamment, en fait, pour gagner sa vie, il a créé et relevé les premiers sentiers de randonnée. Et en même temps, c'est une personne qui adorait la nature et qui avait déjà beaucoup de connaissances écologiques, biologiques, sur le fonctionnement de l'environnement. Et il en a fait de la poésie. Et donc, du coup, on peut lire ses poèmes qui parlent du ruisseau, qui parlent de la montagne et qui parlent aussi de la façon dont les paysages étaient à la fin du siècle dernier. Donc lui, c'est une personne qui nous accompagne beaucoup, en fait. On le relit de temps en temps et ça nous permet de réactiver des idées et des imaginaires dont on parlait au début de l'émission. Autre source ?
La source d'inspiration ?
Ouais.
L'eau.
Ouais.
C'est l'origine du projet avec toi.
Exactement.
C'est vous qui l'avez choisi, la station de radio ?
Non. Il nous a été proposé. Radio Fil de l'eau ?
Ah oui, c'est pas mal, hein.
Ah oui, du coup, ça fait l'eau, du coup, comme source d'inspiration.
Exactement. Et nous, en fait, on fonctionne souvent comme ça. Enfin, ces idées, des choses qui ne sont pas prévues à l'avance. Et des fois, il y a des choses qui arrivent, qu'on arrive à mettre en lien. On se dit, mais en fait, on aurait voulu le faire express. On n'aurait pas pu le faire mieux, quoi. Et donc, souvent, dans la création artistique, il y a souvent ça qui arrive.
Il y a une petite phrase qu'on se répète tout le temps que je vais vous donner. Le hasard, tu me dis, hein, le hasard et le sens sont les deux faces d'une même médaille.
Est-ce que c'est du hasard ?
D'accord. Oui. Okay. Juste plus approfondi, quel est le coût global du projet ?
Excuse-moi, j'ai pas entendu la question.
Pour avoir une idée, quel est le coût global du projet ?
Le coût global. Alors, dans le détail, je vais pas être exacte. Je sais que c'est un projet déjà où il y a une part du budget qui est pour l'œuvre et une part du budget qui est pour le jardin. Mais en fait, pour nous, comme le jardin est l'œuvre et l'œuvre est le jardin, on a travaillé en collaboration avec les paysagistes. Et après, dans le montage de cette opération, il y a énormément. Enfin, c'est un projet où il y a beaucoup de subventions. Je crois qu'il y a 70% de subventions publiques. Si je me trompe, 75. Alors, dans les partenaires, il y a la mairie, mais pas que la mairie. Il y a un programme européen qui est le programme Leader. Il y a les portes du Pays de Gascogne. Il y a, je parle sous le contrôle des mains en fait, la DRAC et le ministère de la Culture en fait. Il y a tout un tas de partenaires. Et effectivement,
c'est ce qui vous aide à financer.
C'est ce qui fait l'enveloppe globale de ce projet. C'est la multitude des partenaires qui se sont mis d'accord pour dire il y a à la fois un territoire, donc la parcelle Tolosa sur lequel on a des besoins. Ce besoin, c'est un jardin. On voudrait aussi une œuvre. Et donc, du coup, le montage s'est passé un petit peu comme ça. Et c'est vrai que c'est un petit peu particulier. En tout cas, pour nous, ça a été particulier parce que c'est soutenu par le ministère de la Culture. Donc, le projet, on l'a présenté à la commune de Lectoure avec d'autres candidats. La ville de Lectoure a retenu notre projet. Mais ensuite, on a été défendre notre projet ensemble au ministère de la Culture.
Avant que vous commenciez ce...
Ah oui, c'est un projet qui est... Ah oui, Oui, c'est pas. En fait, il y a le projet global de transformation de la parcelle en jardin. Et après, il y a eu plusieurs tentatives qui ont mis du temps à aboutir pour trouver la bonne forme, le bon montage pour que le projet puisse se faire. Donc, en fait, nous, on est arrivé un petit peu après dans cette histoire.
Nous, on était la bonne rencontre, en fait.
Mais au départ, vous ne deviez pas faire. C'était pas les fleurs qui devaient faire ressortir l'eau. Vous avez eu d'autres tentatives, par exemple, la fontaine avec le puits, non?
Alors, c'est un process. Effectivement, on est passé par plusieurs étapes, tout en sachant que quand on a présenté le projet, ce qui nous intéressait de dire, c'est qu'en fait, le point de départ, c'est l'eau. Donc, on a fait une première enquête au moment du concours avec une idée de ce que cela pourrait être. Et en fait, cette idée, elle s'est précisée au fur et à mesure où on a pu avoir des informations sur où était l'eau, comment on pouvait faire pour la puiser, comment techniquement, parce que ça nous intéressait aussi, bien évidemment, d'utiliser l'eau souterraine pour arroser le jardin. Donc il fallait aussi qu'on puisse répondre à l'ensemble de ces éléments-là. Donc le projet s'est construit pas à pas et au fur et à mesure, en fait, des informations que l'on pouvait recueillir.
Et aussi, vous avez rénové le petit... Il y avait un petit cabanon en bas où...
La bergerie, l'ancienne bergerie. Oui, ça faisait partie du projet initial où effectivement il y avait la présence de la bergerie qui a été rénovée par la ville, donc mis hors d'eau en fait, pour créer un abri notamment l'été, pour s'abriter du soleil et aussi pour s'abriter de la pluie. Et il y a une veine d'eau qui passe près de la bergerie. Et la veine d'eau, elle est matérialisée aujourd'hui dans le projet actuel de la même manière que les autres veines, c'est-à-dire par le tracé avec des graminées et des arbres.
Vous avez toujours eu de l'aide pour vos projets ou parfois vous avez été seul pour, par exemple, financer?
On fonctionne essentiellement à la commande, en fait. Donc, c'est souvent... Comme Hugues vous a expliqué, on voit des appels à candidature passer, tel lieu sur tel sujet, comme pour Lectour, le jardin et l'eau. Et en fait, on candidate. Donc, sous système de concours, effectivement, du coup, c'est dans un cadre qui est défini, où il y a un budget pour travailler, où il y a un montage d'acteurs derrière qui va suivre le projet, etc. etc.
Ça nous est pour être. Pour aller dans ton sens, ça nous est tout de même arrivé effectivement de devoir construire un budget, bien sûr, sur certains projets, parce qu'il y a plein de profils de commandes. Il y a la commande publique, on l'a exposé tout à l'heure, mais il y a plein de structures possibles de commandes. Les montages ne sont pas toujours les mêmes. Ça nous arrive plus, par exemple, pour faire une production d'œuvres, si on a besoin de financement pour réaliser une sculpture, à titre plus privé, par exemple, plus destiné à... un centre d'art, un lieu d'exposition ou même une galerie. Et effectivement, là, tu as besoin de partenaires et de construire des choses. Mais il est vrai que quand tu vois les montages, et puisque vous l'avez évoqué, ça a pris des années de pouvoir mettre en place une commande publique à Lectour, on préfère vivre dans la poésie que d'avoir à monter ce genre de projet.
Mais après, pour compléter la réponse, donc oui, on répond à des commandes. Mais aussi, de temps en temps, en fonction des rencontres que l'on a, on peut travailler avec d'autres types de structures, en fait. Par exemple, des structures d'hébergement d'urgence. On va réfléchir avec eux sur la question de comment on peut faire du mobilier à partir de bois récupérés, ou voilà, d'intervenir sur d'autres formes de dispositifs qui sont très différents, en fait, de la ville de Lectour et qui sont aussi une autre manière de penser un projet artistique et du coup avec des gens différents et des moyens aussi financiers différents.
J'ai juste une petite question, j'aimerais savoir, vous collaborez toujours ensemble, vous travaillez toujours sur vos projets à deux ou vous pouvez faire éventuellement des projets séparés? Depuis quand date votre collaboration qui, ma foi, a l'air de se passer plutôt très bien? Vous avez l'air d'être très complémentaires tous les deux.
La collaboration dure depuis 23 ans.
D'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a une telle osmose.
À peu près. Mieux. À une année ou deux près. Enfin, les débuts sont toujours un petit peu. On peut partir de la date de la première exposition. Et oui, on collabore toujours, on co-signe toujours ensemble.
D'accord.
Vous êtes rencontrés quand, de collaborer ensemble, pourquoi et comment?
Pourquoi et comment on s'est rencontrés. Les premières collaborations, on était trois, en fait, pour tout avouer.
Oui. Il y en a qui est parti.
Oui, et c'était un projet particulier. C'était vraiment les débuts d'une discussion. On s'intéressait à des sujets différents de la question de l'eau, toujours en lien avec la question du lion. On s'intéressait à la mobilité, à la voiture. Et en fait, on a, au cours d'une discussion avec un autre ami, on s'était dit, mais c'est fou, on est tous nés dans les années 70, on va approcher les années 2000 et on est toujours avec une voiture à quatre roues qui roule sur des autoroutes, en fait. Mais les années 2000, on va forcément passer à autre chose.
Donc, transition qu'ils n'ont pas pu vivre.
Non. Non. Et du coup, ce projet parle d'un jour avec un monde sans voiture. Donc, on a construit une voiture gonflable à l'échelle 1:1. Et en fait, c'était un objet sculpture qui nous permettait de déclencher des projets dans les villes qui nous invitaient. Donc on était déjà sur le travail des lieux. Enfin bref, ça c'est trop long à expliquer. Mais voilà un petit peu, c'était les premiers projets. Et parallèlement à ça, on a commencé à travailler ensemble avec de la vidéo. Et donc sur la question de l'eau et des reflets qui étaient présents. Voilà, donc par exemple, filmer les reflets dans une base sous-marine dans la ville de Saint-Nazaire. Vous avez à nouveau ce son, la présence de l'eau et là.
Par exemple, les gouttes qui ruissellent, qui tombent par exemple par terre.
Oui, exactement. Oui, ce qu'on appelle les encyclies, les vibrations qui sont visibles à la surface de l'eau quand vous avez une goutte d'eau qui tombe. Oui. Ben oui, voilà, c'est forcément des.
Toujours.
Oui, c'est des formes qui nous accompagnent toujours. Oui, oui, tout à fait. On s'en sert même actuellement. Ben c'est un projet qui est en train de commencer pour un collège. Ouais.
Dont la thématique est l'eau.
Dont la thématique est l'eau.
Du coup, quelle est la superficie totale de ce projet? Parce que s'il est grand ou petit, parce qu'on y allait, mais on ne sait pas exactement la taille.
C'est une bonne question parce que je ne m'en souviens plus non plus.
6000 mètres carrés.
On me souffle 6000, ouais. 6000 mètres carrés. La superficie de la parcelle. Alors, pour rebondir sur ta question, et même par rapport à ce qu'évoquait Nathalie, j'ai envie de dire peu importe, dans le sens où que tu aies à réfléchir à quelque chose que tu vas traduire sur une petite forme que tu vas mettre sur un papier, c'est déjà concevoir un dessin, si tu veux. Tu vas prendre un bout d'élément que tu vas mettre dans un cadre et que tu vas savoir équilibrer sur le format qui l'accueille. L'espace, c'est la même chose. Quand tu es dans un volume, c'est l'idée d'intervention qui va générer quelque chose. Ça peut être monumental, certes, mais ça peut être aussi un tout petit geste et avoir la même pertinence. C'est vraiment la résonance. C'est pas parce qu'en fait, on a 6000 mètres carrés qu'on doit occuper 6000 mètres carrés. On aurait très bien pu faire un projet qui était complètement l'inverse de ce qu'on a proposé. On n'y serait jamais allé, mais qui aurait pu plus relever d'une sculpture sur socle posée à un endroit du jardin et... Et autour, ne pas être préoccupé de l'espace, ne pas s'en occuper. Alors évidemment, ce n'est pas nous. Ça aurait été d'autres types d'artistes pour faire ce genre de choses. On n'aurait jamais répondu de cette sorte-là. Mais voilà, quelqu'un d'autre aurait pu proposer ça. Oui. Donc nous, ce n'est pas tant la surface. C'est-à-dire qu'on a une lecture du lieu qui fait qu'on voulait travailler avec les veines d'eau. Il s'avère que les veines d'eau, elles vont de haut en bas du terrain. Elles le traversent intégralement, bien sûr. Et à partir de là, forcément... Le dessin qui s'impose dans ce qui se passe sous nos pieds. Pour nous, l'imaginaire est sous nos pieds dans ce projet, finalement, puisqu'on ne le voit pas, ce dessin d'eau, on le ressent et on vient le faire apparaître à la surface. Mais on vient le faire apparaître pour que les usagers, les gens qui vont utiliser le jardin, s'en imprègnent et en fassent autre chose. C'est-à-dire que c'est une matrice, si tu veux, c'est une sorte de cadre d'accueil. Donc, en fait, forcément, ça s'étale à l'échelle de la parcelle. Mais ça aurait pu être un petit point d'eau au centre et on aurait fait une autre proposition.
Mais vous laissez, vous faites n'importe quelle surface ou...
Il y a des limites. C'est...
Oui, voilà.
Oui.
C'est
ça. Non, en fait, on ne s'est jamais posé, des limites, trop grands ou trop petits. Par contre, on peut intervenir dans des tout petits espaces comme dans des grands espaces, en fait.
Par exemple, un rond-point, vous avez déjà travaillé sur
non,
quelque chose
comme
ça ?
Non, mais on aimerait bien travailler sur l'espace du rond-point.
Donc en fait, vous vous adaptez à l'environnement. Voilà.
Oui, tout à fait.
Ouais. Surtout pour faire tout l'inverse de ce qui se fait.
Peut-être qu'on le ferait carré.
Du coup, votre jardin, il occupera un quart de la... De toute la...
La parcelle ?
Oui, de toute la superficie totale.
Alors, pour les jardins des Wunteners ?
Oui. Il occupera beaucoup de place, enfin plus que la moitié ou moins.
En fait, l'œuvre occupe toute la parcelle du jardin. Mais en fait, la mairie est aussi propriétaire à côté d'une autre parcelle. Oui. Voilà.
C'est ce qu'on avait sur le côté, oui, qui avait...
Voilà. Donc il n'y a pas de projet aujourd'hui sur cette partie-là. Et ça fait partie des lieux où il y a un potentiel, où il y a d'autres choses qui peuvent arriver, on ne sait pas quand, et qui viendront du coup cohabiter avec l'œuvre jardin.
Non, mais je crois que, en fait, si vous voulez savoir si on occupe toute la parcelle qui nous a été allouée. Mais c'est ce que j'essayais de te dire, c'est-à-dire que les veines d'eau traversant du mur d'enceinte de la ville, tout en haut, au niveau où il y a le parking, et ça va en bas jusqu'à l'avenue Saint-Louis, je crois. C'est ça le nom, oui, l'avenue Saint-Louis. Donc si tu veux, comme les veines d'eau, tu ne les guides pas, elles traversent ce terrain, elles ne font que passer sur ce terrain. Si tu veux, on peut les poursuivre. D'ailleurs, si on ne nous avait pas limité à cette parcelle, l'œuvre pourrait être gigantesque. En fait, elle pourrait partir du haut de Lectour et on pourrait partir dans les prairies, dans les champs, bien plus loin, chez d'autres propriétaires, tu vois, parce qu'on pourrait suivre ce fil de l'eau, justement, quoi. Nous, on a une parcelle donnée, donc on a un cadre. Donc en fait on prend son passage sur ce cadre, donc à partir de là, si tu veux, toute la parcelle qui fait jardin est l'œuvre.
Et vous essayez de la dévier un peu l'eau pour l'amener.
Tu voulais qu'on la dévie?
Oui, enfin, parce que si elle traverse directement si vous essayez de la dévier pour la mettre dans le jardin, enfin, un peu dans tout le jardin, parce que si ça passe au centre du jardin, alors que vous essayez de dévier pour...
Ah, alors il faudrait qu'on vous montre les plans, en fait. Oui. Peut-être que vous ne les avez pas vus.
Je les ai montrés,
le dessin du jardin se fait à partir de quatre veines. Ces quatre veines partent du haut du jardin et en fait découpent vraiment toute la parcelle dans sa hauteur. Donc il y a naturellement un dessin qui se met en place. Si ce dessin, si cette composition ne nous avait pas satisfait, en fait, peut-être on ne serait pas allé dans ce type de proposition. Si ça avait été qu'une veine en bordure, peut-être qu'on aurait exploité ce filon, mais qu'on aurait fait une autre proposition. Là, c'est parce que le dessin qui s'imposait nous permettait de découper véritablement un jardin et de faire une proposition autre que ce qu'on attend d'un jardin en temps normal. C'est toujours une expérience qu'on cherche à faire. Si on part de choses qu'on connaît déjà et qui sont déjà établies, il n'est pas très intéressant de faire un projet. On répète quelque chose qui nous est déjà donné. Comment je pourrais t'expliquer ça? Pour faire une expérience nouvelle, pour faire quelque chose qui imprimerait une sorte de futur à un projet, d'avenir, en fait, je crois que je peux le dire, de cette sorte-là, il faut forcément aller vers quelque chose qui n'est pas déterminé, tu vois ce que je veux dire, ou quelque chose qui n'est pas déterminé, quelque chose que tu ne connais pas déjà, qui n'est pas déjà suffisamment défini pour que tu fasses, tu reproduises un geste que tout le monde connaît. Il faut forcément que tu ailles vers une proposition qui t'amène à vivre une expérience, et pas que toi, avec tous les gens qui vont collaborer au projet, et surtout tous les gens qui vont vivre le lieu, et qui vont le vivre par le corps, par le déplacement, par le ressenti. Je ne sais pas si je vous perds pas un petit peu là.
Non,
non, c'est bon.
Quel type de fleurs et d'arbustes allez-vous planter ?
Alors ça, c'est complètement justement un travail d'équipe, puisque des paysagistes sont associés à cette réalisation. Il y a des jardiniers, voilà, il y a des entreprises qui sont spécialisées pour cela. Et comme l'a dit tout à l'heure Nathalie sur le budget, vu qu'on a décidé de faire du jardin l'œuvre, à partir de là, en fait, tout est fondu. C'est-à-dire qu'on travaille en équipe avec les paysagistes, on travaille en budget avec le budget du jardin, on travaille avec le budget de l'œuvre qui peut servir à faire des choses qui relèvent plus de l'aménagement du jardin. Tout ça, c'est emboîté, en fait. Donc l'idée des savoirs est intéressante quand même, et nous, on peut effectivement participer à la discussion, à la réflexion avec eux là-dessus, mais évidemment, les paysagistes ont été très importants pour apporter les propositions de tout ce qui est arboristerie et végétal. Donc en fait, ce qu'on avait demandé avec Nathalie, c'était que les veines d'eau soient révélées À partir d'arbres fruitiers. On tenait à ça, parce qu'on voulait que la notion d'eau prenne encore plus d'importance pour l'arbre nourricier. Mais en fait, on ne leur a pas donné plus de contraintes. Le choix des paysagistes a été de proposer des amandiers. Je crois savoir que l'amandier est un arbre qui résiste très très fortement aux fortes températures et au sol très sec. Mais d'un autre côté, c'est un arbre qui demande beaucoup d'eau pour faire des fruits. Donc il était amusant de jouer sur ce rapport-là, puisqu'en fait, on va quand même prélever l'eau des veines d'eau pour mettre en autonomie cette proposition, parce que c'est ça aussi, en fait. L'eau, elle passe à 9 mètres sous nos pieds dans cet espace. Donc on va quand même pouvoir prélever cette eau pour pouvoir nourrir ce qui va faire l'aspect sculptural du jardin, j'ai envie de dire, le végétal, les massifs, et en fait après reprendre son cycle, tu vois.
Mais du coup, les racines, comment ils vont faire pour se nourrir à 9 mètres du... C'est des plantes spécifiques pour aller...
Alors, pour qu'elles aillent à 9 mètres, je pense qu'il faudrait attendre quelques siècles. Je suppose, hein, je parle d'un sujet que je ne connais pas bien, mais j'imagine quelques siècles. ça arrive, hein, je sais que dans le Lot, il y a une grotte qui s'appelle Pêche-Merle, où il y a une racine d'un châtaignier, peut-être, je ne sais plus.
Chêne ou châtaignier.
Oh, un arbre très très très, très ancien, qui a lancé une racine et qui, comme elle s'est retrouvée dans une immense cavité dans le vide, elle a continué son petit parcours en flottant, j'imagine, jusqu'à aller replanter dans le sol... je sais pas, des mètres, 15 mètres plus bas peut-être, très très loin, mais je pense qu'elle a mis longtemps à aller chercher sa petite nourriture. Non, c'est pas, ces arbres fruitiers sont des petits arbustes, ils vont pas aller chercher l'eau évidemment si profonde, mais comme l'évoquait Nathalie tout à l'heure, on a pu révéler et retrouver des puits qui avaient été enfouis et qui étaient oubliés, et donc on va se servir de l'eau de ces puits pour remonter l'eau et la mettre en goutte à goutte et nourrir toutes ces plantes, exactement. Et entre les arbres fruitiers, il y aura des graminées.
C'est une type de fleur.
Ouais, c'est exactement. Un graminée, ça peut être du blé par exemple, c'est un graminée. Et il y aura des graminées qui sont assez autonomes en temps normal, mais qui vont profiter aussi du goutte à goutte des arbres fruitiers pour matérialiser en fait encore plus et densifier la ligne, qu'on comprenne bien qu'en fait c'est le passage de l'eau et qu'en haut du terrain on puisse voir ces lignes de fuite comme ça qui traversent le terrain de haut en bas.
Et là du coup c'était vraiment notre demande en discutant avec l'équipe de paysagistes, c'était de trouver des végétaux ou des arbustes qui puissent rendre visibles les veines d'eau de haut en bas. Que ça soit en réfléchissant sur les 12 mois de l'année en fait, en printemps, en hiver, de manière à ce que l'œuvre soit tout le temps visible, certes de manière différente parce que ça va varier avec les saisons, mais qu'il y ait toujours cette présence. Et ce qui nous intéressait aussi, c'était les différents points de vue pour regarder l'œuvre. On est dans l'œuvre, dans le jardin, mais en même temps, il y a des points de vue, par exemple, sur le sentier de ronde, je crois qu'il s'appelle comme ça. Oui. Ben là, vous pouvez... surplomber en fait le jardin et vous avez une vue totale sur le tracé des veines d'eau. Donc c'est des points de vue qui nous ont intéressés pour discuter avec eux également.
Mais pour les plantes, il y en a qui résistent plus à la chaleur ou au froid?
En fait, la demande qui était faite, c'était d'avoir que les plantations puissent être autonomes. Et il est vrai que les graminées, comme disait Hugues, sont... elles n'ont pas de besoin particulier, en fait. Ce sont des plantes qui sont rustiques, elles n'ont pas forcément besoin de beaucoup d'eau. Puis une fois qu'elles sont ancrées, elles sont présentes. Et en fait, ce qui est important aussi pour le jardin, ben, c'est la première année, en fait. C'est là où il faut vraiment porter attention à la végétation pour être sûr que les racines se fassent.
Ça va prendre son cours petit à petit.
Oui, exactement.
De même pour les fruitiers, d'ailleurs. Les deux premières années, ils ont besoin de beaucoup d'eau, évidemment. Mais après, en fait, au bout de peut-être 3 ans, les fruitiers seront... relativement autonome, ouais. L'eau leur sert plus à produire des fruits, en fait.
Mais du coup, par exemple, si vous plantez des amandiers, c'est ça, est-ce que les personnes pourront les manger?
Oui, c'était la volonté. Il y avait aussi l'idée du jardin nourricier. C'est que la manière de faire les jardins, elle a beaucoup changé, en fait, en 50 ans, 60 ans. Avant, on était sur l'esthétique du jardin qui devait être beau. Aujourd'hui, ben, le jardin, avec la végétation, participe, en fait, au bien-être dans une ville, avec de la fraîcheur, puis les arbres rendent des services à la végétation, enfin, il y a tout un écosystème. Et il y a aussi cette idée d'aujourd'hui d'un jardin qui répond aussi à des besoins comme un potager, pour le dire hyper, hyper rapidement. Mais du coup, ça permet de déployer tout ce que peut apporter en fait le vivant dans un jardin. De l'ombre, de la fraîcheur, des jeux. Effectivement, ça peut produire des fruits, ça peut produire des plantes comme de la lavande, dont on peut faire aussi autre chose. Et c'est le début d'une autre histoire qui commence.
Et il y a des protections contre les tempêtes ou les dégradations ou pas?
Non, il n'y a pas de protection autre que la protection, autre que la nature sait se protéger.
Si par exemple il y a de la grêle et que ça ravage toutes les plantes, du coup, comment vous allez faire pour ce genre de situation?
Alors attends, précise ta question, parce que la grêle, nous, on va pas mettre, c'est pas un stade, on va pas mettre un toit par-dessus.
Non.
Alors qu'est-ce que tu veux?
Si
la grêle, c'est quoi? Ça veut dire que ça détruit l'œuvre?
Oui, voilà, par exemple.
Et si on détruit l'œuvre, c'est quoi? C'est la nature qui a vandalisé notre proposition? S'il y avait un effet climatique ou une intempérie qui viendrait détruire, arracher les arbres fruitiers, et écoute, c'est que cette proposition a eu sens un temps et que en fait, ça donnerait forcément soit une volonté de la rejouer autrement ou de laisser la place à un autre type de proposition. Je crois que ce qu'on essaye de faire sur des projets comme celui-ci, je reviens sur presque le mot politique, mais je ne sais pas si vous l'avez déjà étudié, le mot politique, parce qu'on a parlé de ça tout à l'heure par rapport à comment utiliser son temps. C'était peut-être pas si évident. Là, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que l'esthétique d'une œuvre, c'est pas forcément d'avoir comme préoccupation la beauté, un objet pérenne, un objet fini qui bouge pas dans l'espace. Nous, si on nous dit, vous avez une parcelle, vous devez mettre une statue sur socle, et elle sera là à jamais pour célébrer, je sais pas, le printemps, par exemple, et qu'elle n'a pas d'interaction avec les publics, si ce n'est que tu passes autour ou que tu vois toujours le même objet qui peut avoir un très joli mouvement, c'est pas le souci, mais ça ne nous intéresserait pas de faire ça. En fait, ce qui nous intéresse, c'est de poser des questions sur le monde environnant, celui que tu vis, toi, tous les jours, que tu te poses des questions aussi, tu t'entends les discussions sur le... Je sais pas, sur des sujets aussi larges que les transitions écologiques, les transitions climatiques, tous les enjeux que les gens se posent aujourd'hui, comment utiliser les sols, comment se considérer dans le vivant, où est-ce qu'est la place de chacun, est-ce que les autres éléments du vivant sont aussi importants que toi, les droits qu'on leur donne, etc., etc. Si tu veux, sur une œuvre, c'est la même chose. En fait, on va pas nous se poser la question de se dire, dans un site donné, il y a un jardin qui est construit, on va mettre un objet au milieu. On a voulu réfléchir avec cette proposition qu'on trouvait assez sublime, c'était d'abord de choisir un artiste et ensuite de réfléchir à comment on travaillait avec les paysagistes autour de la proposition de l'artiste. À partir de là, on a décidé que le jardin deviendrait le dessin de l'œuvre deviendrait le dessin du jardin, et vice-versa, forcément. Donc il fallait des gens qui acceptent de collaborer avec nous. Mais une fois qu'on a décidé ça, la question de mettre des éléments structurels en matériaux, n'était pas forcément quelque chose qui s'imposait au projet. Ce qui s'imposait, c'était quels sont les enjeux qu'on a aujourd'hui et comment les gens peuvent comprendre, aller à la rencontre de sites et comment ils peuvent le vivre, en fait, comment ils vont l'aborder. S'ils l'abordent s'ils s'en imprègnent dans le sens, peut-être qu'ils s'en imprégneront aussi symboliquement. Et à partir de là, en fait, on aura, je pense, la réponse à ce qu'on essayait de proposer.
Et quand on disait tout à l'heure que quand on fait une œuvre dans l'espace public, on rentre dans une conversation qui a déjà commencé, parce qu'il y a déjà une histoire, il y a déjà des trucs qui existent avant. Mais quand on termine l'œuvre, la conversation, elle continue en fait. Donc oui, il peut se passer plein de choses, hein. Des choses qu'on a prévues, des choses qu'on n'a pas prévues, et l'œuvre, elle est aussi appropriée. Et puis des fois, en fait, il y a des choses qu'on a pu prévoir, puis des choses qui sont complètement surprenantes. Par exemple, pour les conteneurs dont on parlait tout à l'heure, avec les conteneurs dans le port, voilà. Donc c'est conçu comme une œuvre, on peut la visiter, on peut rentrer dedans, on peut faire le tour.
On peut se rouiller, on peut le ressentir,
exactement. Et il y a eu le confinement. Et en fait, pendant le confinement, l'œuvre, elle a eu une autre vie, elle a eu une autre histoire. Au déconfinement, elle a servi, par exemple, de plongeoir pour les adolescents. Ah oui, mais là, c'était une fonction où les commanditaires étaient un petit peu dépassés parce que c'était pas prévu pour être un plongeoir. Mais une œuvre.
Beaucoup de personnes qui venaient.
Elle restait œuvre, mais simplement, elle était appropriée aussi par l'espace.
L'espace public.
Oui, parce que c'est ça aussi. Donc c'est pour te dire tout à l'heure, quand tu disais le climat, et s'il arrive ci, s'il arrive ça, bah ouais, en fait, il peut arriver plein de choses. Et c'est normal parce que l'œuvre continue à vivre, en fait, indépendamment, sous plein de formes différentes.
Et en plus, s'il y a la grêle ou du vent,
oui.
Après, si c'est pas très beau l'œuvre parce qu'il y a tout qui est arraché, on peut faire une autre chose, mais encore plus belle, du coup.
Oui, ça peut. En fait, si jamais ça arrive, ça ne sera pas que le jardin, par exemple. Ce ne sera pas que l'œuvre qui sera touchée. Ça sera aussi d'autres espaces qui voudront repenser à aménager, reconstruire ou je ne sais pas quoi. Donc l'œuvre, elle est prise aussi dans un contexte beaucoup plus large qu'elle-même. Elle n'existe pas toute seule. Elle existe aussi parce qu'elle est reliée à ce qui l'entoure. Elle n'est pas.
Pire, la nature, elle va reprendre son cours. Ils vont repousser petit à petit.
Voilà.
Alors voilà, c'est la nature naturante. Plutôt exactement. Que la nature naturelle, on va dire.
Si un arbre il tombe, il va repousser, mais il y aura toujours l'arbre qui sera et ça fera joli, par exemple, un arbre mort.
Oui. Oui, puis ça part du principe aussi qu'on ne peut pas tout maîtriser, en fait. Effectivement, l'arbre peut tomber et il peut aussi repartir. Comme on pense qu'un arbre, en fait, quand on l'a coupé, il est mort, mais en fait, la souche d'arbre dessous, elle continue à vivre. Et en fait, elle fait des racines et les arbres font des racines à côté pour aider la souche à vivre. Donc il y a plein de choses qui se passent, que nous on ne voit pas, mais en fait tout continue à fonctionner.
Par exemple, les oiseaux, dès qu'ils font caca, par exemple, dès qu'ils mangent des graines, oui. Ils laissent tomber et peut-être que ça tombera sur le jardin et oui. Ça donnera une autre vie.
Oui. Enfin, oui, c'est pour ça que par exemple, quand on parle des usages... Le temps d'après. On dit souvent que on veut pas du tout conditionner l'usage que les gens vont avoir de l'œuvre, mais par contre, on veut proposer un cadre ouvert aux usages. Donc libre à chacun, en fait, de contempler, de traverser, de s'arrêter, de ne pas voir. Voilà, c'est tout ça, c'est possible, c'est une proposition.
Et comment allez-vous harmoniser le végétal, les fleurs, les arbustes avec le minéral, la murette et l'eau ?
Comment
allez-vous harmoniser le végétal, les fleurs et les arbustes avec le minéral, la murette et l'eau ?
Alors, ça, c'est les réflexions qu'ont menées aussi les paysagistes. Et dans l'harmonisation de cet ensemble-là, nous, on souhaitait... qui est beaucoup de porosité, beaucoup de souplesse. C'est-à-dire qu'on voulait le moins possible des chemins dessinés. Donc du coup, le minéral et le végétal s'entremêlent un petit peu. On ne voulait pas formaliser les espaces en disant ben, « c'est par ici qu'il faut passer pour descendre le jardin, c'est par ici qu'il faut passer par la bergerie ». Il y a des structures qui ont été pensées qui rendent l'usage possible, mais libre à chacun de les emprunter ou pas. Donc du coup, l'agencement entre le minéral et le végétal, il essaye de rendre pratique tout en n'étant pas visible, en donnant une possibilité de se déplacer de cette façon-là ou d'en choisir une autre.
Il y a le déjà là.
Oui.
C'est surtout qu'il y a le déjà là. C'est-à-dire que c'était une ancienne zone maraîchère où, dans laquelle il y avait des terrassements en palier avec des murs de soutènement. Il y a le mur, on l'a évoqué, du chemin de ronde, le mur d'enceinte de Lectoure et cet ancien petit bâtiment là, donc que communément on appelle la bergerie, qui était déjà présente sur site. Donc en fait, tout ce qui était du domaine du minéral était déjà en place. Il s'agissait de jouer avec, et c'est souvent ça d'ailleurs l'intervention. Hein. Quand on arrive dans un lieu, on a l'héritage de ce qui était déjà là.
Comment visez-vous? Envisagez-vous d'intégrer la bergerie au reste du projet ?
Alors, on l'a grandement envisagé et faisait du parti de l'intention du point de départ. Ça, c'est toute la complexité de mise en place d'un projet. Ça peut parfois obliger à faire des choix ou des choix sont pris par d'autres, en fait, parce qu'on ne peut pas disposer de tous les éléments. Et il s'avère que cette bergerie, il y a eu plusieurs interventions, plusieurs destinations possibles, plusieurs manières de se l'approprier. On voulait à l'origine effectivement jouer avec, on voulait même rendre l'eau apparente à cet endroit-là pour que ça soit un élément public. Il s'avère que l'eau, c'est pas si simple parce que l'eau, elle est surtout polluée, elle est très polluée. Donc en fait, elle crée on ne peut pas la traiter pour qu'on puisse la rendre aussi facilement... Alors elle n'est absolument pas potable, mais elle n'est pas conforme sur beaucoup de choses. Donc en fait, c'était très compliqué de la mettre au contact du public. Il s'avère aussi qu'il y a des coûts, des travaux, des zones qui ne nous étaient pas permises sur lesquelles intervenir. Il y a de l'eau qui est précisément affleurante et au nord de la parcelle, au sud de la parcelle, on la retrouve de l'autre côté de la route. Dans ce qui était les anciennes tanneries royales, elle est carrément à couler à flot à fleur de sol aussi. Et l'opposé de la parcelle de l'autre côté, on la trouve dans un fossé en sortant des maisons, des propriétés privées qui sont au-dessus. Elle est dans un fossé à même pas un mètre de profondeur du sol. Sauf que sur la parcelle sur laquelle on intervient, elle est précisément en puits, mais à 8 mètres, quasiment 9 mètres de profondeur. Donc en fait, elle n'était pas vraiment exploitable gravitationnellement, sauf si les pouvoirs publics ou privés nous donnaient la possibilité d'y accéder. À partir de là, en fait, ça donne des changements d'orientation dans le projet. Donc notre idée initiale d'effectivement d'exploiter l'eau et de la faire apparaître dans ce bâtiment, qui était l'idée qu'elle tombe comme une petite fontaine, en fait, du pignon du mur, et qu'elle tombe dans une rigole au sol et qu'on puisse la poursuivre, finalement était quelque chose qui n'était pas adapté. Alors la pompe, oui, la pompe, ça, on a gardé, bien sûr, à partir du moment où on a pu retrouver la trace des anciens puits qui étaient recouverts, qui étaient enfouis, en fait, même déconstruits, il a fallu les rebâtir sur la partie haute. À partir du moment où on a pu retrouver ces puits, bien sûr, on va utiliser l'eau des puits, oui. Mais donc, du coup, voilà, c'est ça, un travail en évolution, et qui fait qu'en fait, il y a des choix initiaux qui ne sont pas forcément les réalisations la fin. Mais ça ne perd pas le contexte global du tracé, du dessin.
Mais du coup, ça permet de compléter aussi les questions de tout à l'heure sur la contrainte. Est-ce qu'il y a des contraintes dans un projet? Oui, en fait, la contrainte nous sert à avancer. Et effectivement, il y a un autre type de contrainte où ça pose problème. Donc, nous, ce qui est important, c'est de garder la logique du projet, enfin de veiller, ok, ben là c'est pas possible, mais par contre là il faut trouver une solution. Donc ça permet de se recentrer sur l'objectif aussi central de la proposition.
Mais du coup, quel est l'entretien prévu une fois le projet réalisé, enfin, quand le jardin il sera fait?
L'entretien, ben, il y a l'entretien du jardin...
Ouais,
il y a l'entretien du jardin normal, en fait, enfin du vivant.
Comme si on avait un jardin chez nous, on doit l'arroser.
Oui, alors, en tout cas, d'un point de vue technique, le jardin, il faut bien le surveiller les premières années, en fait.
Ouais.
Pendant 2 ans, il faut vraiment veiller, de manière à ce que tout prenne bien racine. Et au bout de 2 ans, le jardin est considéré comme étant beaucoup plus autonome.
Et après, il sera seul.
Bah oui, il y a un truc de croissance en fait, comme nous.
La nature, elle prendra dessus.
Elle sera à même de pouvoir se prendre en charge toute seule en fait.
Il faudra quand même un peu l'arroser et la surveiller parce que si. Mais après la nature, ça va se faire tout seul et on aura. Et voilà. Enfin, vous n'aurez pas besoin tout le temps de surveiller.
Non. Le dessin, le jardin. Comme le jardin fonctionnera. Après, sur la question de l'eau, ça fait partie des choses sur, je ne sais plus si on l'a dit tout à l'heure, pour nous qui était importante, c'est que on puisse se servir de l'eau présente sur le site pour pouvoir naturellement arroser les veines d'eau, pour créer un cycle autonome en fait. Les veines d'eau signalent la présence de l'eau dans le sol qui elles-mêmes permettent de signaler la végétation du tracé des veines d'eau.
Question comme ça, les veines d'eau, ça vient d'où? Ça peut grossir ou pas?
Ça vit, ça peut bouger, ça peut grossir. Et en fait, ce qui nous intéressait aussi dans le projet, c'est qu'il y a un puits du coup qu'on a redécouvert en bas de la parcelle.
Plus récent, lui, que le premier qui
restera.
Oh, non, c'est pas ça. C'est très ancien ce puits, on n'a aucune idée s'il est récent ou pas. On n'a pas de traces dans les documents.
Ils sont généralement à 8 mètres. À peu près.
C'est pas mal quand même. Le plus ancien, il sert là. Vous l'avez rénové, du coup, il sert.
Alors, on en a remis à jour 2 qui ont été curés, nettoyés. Il y a le premier puits très ancien, puisqu'il est sur les cartes du 15e siècle, si je ne me trompe pas.
Avec la plaque dessus.
Oui. Donc lui, en fait, on le laisse tranquille. On le signale juste avec une plaque en fonte sur laquelle il y aura que l'on composera. Et le puits du bas, lui, restera actif et visible. Et ça sera l'endroit où l'eau restera visible à l'œil dans le jardin.
Puits seront fermés ou ouverts pour qu'on puisse voir l'eau?
Celui d'en haut sera fermé.
Il y aura
et celui d'en bas, en fait, sera une grille, mais du coup, ouvert. On pourra voir, en fait, l'eau à l'intérieur du puits.
Ils sont beaucoup remplis ou pas beaucoup?
L'eau pour le puits du bas, actuellement, elle est à 4 mètres.
Les deux.
C'est pas mal, quand même.
Bah, c'est pas mal, parce que du coup, lorsque vous regardez le puits, vous voyez vraiment où se trouve l'eau. Ce qui peut être un baromètre aussi. Ça veut dire que là, on la voit à cette hauteur-là, mais comme l'eau, elle est vivante, et oui, en fait, la présence des veines souterraines, elle peut grossir et autres, le niveau du puits va aussi varier en fonction des saisons.
Ce qui est surtout important, c'est son débit. Oui. C'est à quelle vitesse il se remplit, tu puises l'eau, tu vois, puisqu'on en a besoin.
Et avec les puits, tout ça, vous n'avez pas peur qu'il déborde si... Parce que la semaine dernière, il y a eu beaucoup, beaucoup de pluie.
Oui, mais en même temps, le puits, il était déjà là avant que nous, on arrive.
Il n'a pas débordé.
Et a priori, c'est pas qu'on a eu du mal à les trouver, mais il a fallu quand même aller les chercher. Donc, je pense que ça s'équilibre un petit peu tout seul.
Sur ta question, est-ce que les veines, ça grossit? On aurait plutôt tendance à penser depuis quelque temps que on rentre dans une période de stress hydrique, comme on dit, et qu'il y a plus de difficultés à trouver des puits qui n'ont pas tari ou des veines qui sont encore en bonne alimentation. Le puits du haut, par exemple, met beaucoup de temps à se remplir. Donc, on peut imaginer que... il est plus petit, mais on peut imaginer qu'il a eu un meilleur débit historiquement et qu'aujourd'hui il est moins bien alimenté, ou que la veine a trouvé un autre passage parce que peut-être il y a des choses qui l'ont détourné, ou tout simplement qu'il y a moins d'eau qui coule. Celui du bas, c'est intéressant parce qu'en fait il a un bon débit, il se remplit très vite, il y a encore beaucoup d'eau qui vient dedans, mais on a pu discuter avec l'ancienne propriétaire qui a fait du maraîchage, qui a eu cette parcelle autrefois. Elle nous parlait d'un point d'eau, effectivement, qui était dans ce petit endroit du terrain, qui lui débordait littéralement en période de pluie et qui inondait la route, en fait, en contrebas. Donc il y a dû avoir effectivement encore beaucoup, beaucoup plus d'eau qui coulait à cet endroit-là. Ouais.
Mais est-ce que s'il n'y aurait pas eu de pluie, vous en auriez créé un ou pas avec les veines d'eau? S'il y avait eu les veines d'eau aussi?
C'était une des solutions envisagées. Ça dépendait de ce qu'on allait trouver. C'est onéreux, c'est compliqué, c'est techniquement pas si simple en fait. Enfin, c'est pas très compliqué de faire un puits, mais bon, ça entraîne des coûts. Alors les veines d'eau, ça on les avait.
Oui, mais avant de faire le puits, il fallait trouver les veines d'eau au départ.
Mais si on n'avait pas eu d'éléments d'exploitation, on a cherché toutes les solutions possibles en fait. Soit la récupérer en amont, soit la prendre sur le terrain, éventuellement d'aller percer des puits en haut du terrain. On a réfléchi à toutes ces structures, mais après, on l'a dit plusieurs fois, on a nos limites, elles sont dans le temps, elles sont budgétaires, il y a des choix politiques, il y a plein de choses que nous, on ne peut pas décider, on peut suggérer, on peut proposer, mais on ne peut pas tout décider.
C'est pour ça que le gros travail en fait, de l'œuvre, ça a été l'enquête sur l'eau. Ça a été de trouver des gens qui connaissaient l'histoire de l'eau à Lectoure, l'histoire de l'eau sur cette parcelle, des gens que l'on pouvait rencontrer. Les sources écrites, il n'y en a pas forcément beaucoup. Et puis en fait, quand on rencontre les gens, on s'aperçoit qu'ils ont des histoires qui sont aussi différentes. Donc c'était de prendre le temps aussi de connaître cette mémoire de l'eau à Lectoure qui pouvait conforter le fait que nous, il y avait le puits qui était là, notamment le puits du bas en fait, qui a priori avait on le voyait bien, et que lui en fait de confirmer qu'il avait bien eu une fonction par la suite. Donc c'était une bonne piste pour se dire, là en fait on ne va pas creuser forcément un nouveau puits, mais il faut aller exploiter celui-ci qui est existant.
Merci pour la question d'avant. Comment ça grossit? Aussi, l'eau, quand elle circule, il y a les arbres qui poussent autour.
Oui.
Et peut-être que si l'eau, s'il y a plus de... Pour savoir s'il y a plus d'eau en bas, c'est pour voir peut-être que plus il y a d'arbres, plus il y a d'eau.
Ah, de regarder la végétation comme une information qui nous permettrait de savoir où est l'eau?
Oui,
parce que... quand vous regardez un plan satellite, un plan vu d'en haut, vous voyez des endroits où le vert est plus foncé qu'à d'autres endroits.
Oui.
Et en fait, ça allait dans le sens, pour nous, des indications du tracé de la baguette. Donc en fait, la végétation était aussi une indication sur la présence de l'eau souterraine.
Ça indique qu'elle est peu profonde, par exemple.
Oui, ça indiquait qu'il y avait, puisque l'eau était plus verte, la végétation était plus en forme, et du coup, ça faisait le lien.
Pour revenir au vendo, ils sont tous à quasiment 9 mètres de profondeur, ou il y en a qui sont plus hautes, il y en a qui sont plus basses?
À un moment donné, elle remonte aussi à la surface. Ça dépend de l'endroit où, où vous êtes. Ah, sur la parcelle, pardon.
Évidemment, elles sont, oui, à cette hauteur-là, sur toute la parcelle. Et étonnamment, dans le bas de la parcelle, on est encore à des profondeurs très élevées qui sont de... En fait, il y a un puits qui est tout en haut, le puits qui est historique, qui se retrouve dans une maison qui est en contrebas de la parcelle, qui est une maison privée. Et la personne a un puits aussi, mais c'est la même veine d'eau. Il s'avère que dans le puits de ce particulier, on a pu le sonder, je crois qu'il est aussi à... Non, il était encore à 6 mètres, je crois, à 6 mètres de profondeur, il y a 4 mètres d'eau. Donc tu vois, elle est encore très enfouie, en fait, sous la parcelle. Par contre, une fois que tu traverses la route, là, il y a vraiment un dénivelé très très fort. Et quand on va en bas du terrain, qui est de l'autre côté de la route... l'eau apparaît quasiment à fleur d'eau et elle arrive tout au bout dans un puits, et là effectivement il n'y a même plus de profondeur, tu la prends comme une source qui apparaît dans un terrain. Oui. Voilà, mais c'est qu'en fait là on est sur une pente très forte et à cet endroit là elle est très profonde. Ouais.
Si vous deviez choisir un slogan pour le jardin, ce serait quoi?
Waouh, faut faire un truc façon slam là, non? Ça serait scrute la nature, c'est là qu'est ton futur.
Moi, je ferais toc toc, l'eau es-tu là?
Ça te va?
Pourquoi pas? C'est des idées.
C'est un peu pour paraphraser Léonard. Vous connaissez le peintre Leonardo? Voilà. Il disait de... Il nous incitait à regarder la nature.
C'est ce qu'il en faisait, ses peintures. Mmh. Peinture, nature, c'est fait. C'est fait.
D'autres questions?
Non, c'est fini.
Ah, ouais.
Ah d'accord. On finit sur la note slogan. Mmh.
Okay. C'est la question la plus drôle.
Bon, j'espère que la réponse t'a fait sourire. Mmh. Mais alors peut-être, je crois qu'on a encore un peu de temps, peut-être que...
Le public
peut-être
a des
que
questions.
D'autres peut-être que d'autres ont des questions.
Ah oui, si j'ai une question du coup qu'on n'a pas encore posée.
Alors vas-y.
Combien dans votre association? Vous êtes beaucoup ou pas beaucoup? En tout?
Pour ce projet?
Oui.
Parce qu'en fait, à chaque projet, il y a une équipe différente qui se met en place.
Il y a, par exemple, là, vous avez eu des jardiniers,
une équipe de paysagistes. Mmh.
Voilà. Coup, pour retaper
le puits?
J'arrive vraiment à me souvenir du nom.
Le jardin? Boutonneur?
Non. La passerelle? La bergerie.
Ah, c'est les services de la technique de la mairie, je crois, qui s'en sont chargés.
Vous êtes combien en tout, du coup, pour ce projet?
Je ne sais pas trop, parce qu'en fait, on n'est pas le chef de projet, là. Il y a effectivement beaucoup de corps de métier. Il y a des gens qui sont tailleurs de pierre. Il y a des gens pour l'emmarchement. Il y a des gens qui vont... Des entreprises pour faire les plantations. Il y en a d'autres pour travailler le sol. Il y a un petit peu de canalisation à passer, forcément, pour l'irrigation. Il y a aussi pour l'électricité. Voilà, c'est un chantier qui, comme tout chantier de construction, qui réunit plusieurs corps de métier. Nous, on est toujours deux. Et en fonction de chaque projet, on construit une équipe spécifique. Mais pas toujours, on la pilote pas toujours. Des fois, on est chef de projet. Des fois, il y a des intermédiaires.
Merci. Alors, 6 questions. Et après,
il y en a plein,
Ilona,
plein.
Pour commencer.
Déjà, bonjour. Et pour vous, qu'est-ce que c'est une œuvre vraiment... qu'est-ce qui définit une œuvre? Parce qu'on a chacun notre point de vue.
Alors si chacun a le sien, c'est quel est le tien?
Pour moi, une œuvre, c'est quelque chose... comment dire? Qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qui est vraiment... Je ne sais pas trop comment expliquer, mais qui a été... qui a été construit, qui a pris du temps à être fait, et qui a pris du temps à être fait.
Oui, voilà, qui provoque une émotion aussi.
Le toucher, c'est intéressant. Mais souvent, tu peux faire que du toucher, du regard, parce que en fait, dans les musées, si tu vas toucher les œuvres, je ne sais pas si on t'a... Alors, je crois qu'elle est très difficile à atteindre. Je ne sais pas si tu peux la toucher.
Déjà, la voir, c'est compliqué.
La toucher du regard, peut-être. Alors, la notion de regard, peut-être, tu voulais évoquer. Alors, effectivement, effectivement le... au moins pour faire œuvre, il faut au moins il faut au moins un auteur et un regardeur, ça c'est sûr. Donc on peut considérer qu'il y a une proposition qui est donnée par un individu et pour qu'elle existe, il y a un autre individu qui l'a fait exister par le regard. Ça, je suis d'accord, je vous rejoins complètement. Je pense effectivement que c'est une définition qui est très libre en fait. Hein. J'aime bien l'idée du regardeur. Dans ce que tu as dit, ça, c'est, je trouvais tout juste et surtout le regardeur.
Mais c'est une histoire que tu peux peut-être raconter, mais moi ça me fait penser à la concurrence déloyale.
Ah, alors ça c'est autre chose. C'est un artiste, ah oui, c'est une anecdote très marrante. C'est un artiste qui est très célèbre, on parlait de célébrité tout à l'heure, en France, qui un jour, suite à une rétrospective d'un artiste au Centre Pompidou à Paris, à Beaubourg, faisait qu'on se retrouvait sur une terrasse au cinquième étage avec un cocktail qui était offert, c'était un artiste allemand, donc par le Goethe Institut, et on se retrouve devant une lumière, ce qui peut arriver parfois au-dessus de Paris, une lumière incroyable de coucher de soleil. Et effectivement, on venait d'assister à une rétrospective, c'est-à-dire un ensemble de toute la carrière d'un artiste qui n'était plus vivant d'ailleurs. Et cet artiste vient à ma rencontre et me dit « Hugues, c'est de la concurrence déloyale ».
Parce que le coucher de soleil et la lumière étaient tellement sublimes que tout le monde avait déporté le regard des œuvres dans le musée de l'exposition aux cadeaux que faisait le ciel, lumière, couleur, qui provoquait donc, comme ce que tu disais tout à l'heure, émotion, poésie, captation et quelque chose qui est plus fort. On est attiré et ça crée un moment entre parenthèses. C'est comme s'il y avait le temps qui était suspendu. Tout le monde est juste en accord ou dans l'œuvre ou en relation avec l'œuvre. Donc c'est pour ça que cette petite anecdote de concurrence déloyale, c'est parce qu'à ce moment-là, ça avait provoqué ça, en fait, comme effet.
Merci. Diane et Louise.
Alors là, vous venez nous parler du jardin d'Ewan Tanner. Mais sinon, que faites-vous comme style d'art? Enfin, à part ça.
Il aurait fallu vous faire une présentation.
Ouais.
Vous avez parlé des containers, ça c'est un autre... Style.
Oui, c'est un autre style, effectivement. On est
c'est avec des matériaux de récupération, non?
Oui.
Alors, ça se rejoint, en fait. C'est-à-dire que on a la volonté de ne pas ajouter des éléments. On n'a pas envie d'être dans une production d'œuvres qui fait qu'on est dans un rapport à la consommation, si tu veux. Quoi. On considère que... C'est nos choix, hein. Ça serait... la notion de choix est très importante, hein. D'autres artistes l'exposeraient autrement. On considère qu'on n'a pas à produire des sculptures ou des œuvres, des tableaux qui viennent s'ajouter à des choses qui nous ne sont pas, relèvent pas de notre ressenti. Donc on part d'éléments qui sont déjà existants, comme tu dis, le réemploi. Les conteneurs, elle l'a exposé tout à l'heure, Nathalie, c'était des conteneurs qui sont du dernier voyage, donc en fait on peut les déstructurer, de toute façon après ils seront détruits pour être réexploités autrement. Non, ils ont servi le temps de l'exposition. Ensuite, ils ont été transformés encore en d'autres éléments. Ils n'avaient que la durée de vie de l'exposition. Mais pour le jardin, pour répondre à la question, pour le jardin, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, on a une parcelle et on sait qu'un jardin doit exister sur cette parcelle. On a la volonté si on avait eu l'utilité d'ajouter des matériaux, on l'aurait fait. On va au plus juste de ce qui nous semble être la proposition. Il s'avère qu'en fait, on part du principe qu'on va travailler avec le végétal, avec le vivant. C'est le vivant, notre histoire, puisque le sujet est l'eau, c'est le vivant. On a décidé de travailler les volumes et la composition à partir des végétaux. On n'a pas eu besoin d'ajouter d'autres éléments. La réponse était juste et il ne semble pas utile de fabriquer du plus là où on n'a pas besoin. On a plutôt tendance à soustraire, en fait, véritablement. En fait, on va pouvoir vous garder pendant des heures, là.
Combien avez-vous fait d'œuvres dans votre carrière?
Voilà, écoute, on va t'envoyer le lien du portfolio et je te laisserai en faire la comptabilité. Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas te répondre.
Thomas,
alors, il n'y en a pas. Enfin, Combien? C'est vrai que c'est difficile de répondre parce que, comme on disait tout à l'heure, ça fait 20 ans en fait maintenant qu'on travaille ensemble. Mais les œuvres, comme on les fait beaucoup par commande, et on n'a pas non plus des commandes, 10 commandes dans le mois par exemple, des commandes comme la ville de Lectoure ou des commandes comme on parlait tout à l'heure avec Lille, ben pour nous c'est le travail de 2 à voire 3 années en fait. Et après, dans les types d'œuvres, bah, du coup, il y a des œuvres qui sont importantes en termes de surface, des œuvres qui sont plus petites. Et il y a aussi les œuvres que l'on peut proposer dans le cadre d'expositions. Donc ça donne plutôt une diversité.
Il faut peut-être le voir plus comme un tout pour répondre à ta question. C'est-à-dire que tout ça fait peut-être l'œuvre.
Thomas, donc
et une œuvre globale, exact.
Peut-être, je ne sais pas si on peut le voir.
Est-ce que ça vous arrive de vous tromper sur vos œuvres, de faire des erreurs?
Ah, c'est pas mal ça. À partir du moment où... où est-ce que t'es? Qui a posé cette question? À partir du moment où... où on souhaite expérimenter, il y a une prospection, donc on va à la rencontre de quelque chose. On essaye... Alors, on a des sujets, vous l'avez compris, on a des sujets récurrents, on a des outils même hein, qui sont un peu toujours les mêmes, donc en parlant de transformation ou de... On parle beaucoup, par exemple, on a beaucoup fait d'installations à partir de matériaux de chantier, qui accentuent l'idée de temporaire d'occupation d'un espace et qui fait qu'en fait, ensuite, tu peux redistribuer ces matériaux. Donc il ne reste rien, souvent, d'un geste qu'on fait dans l'espace. Quand il est pérenne, oui. Quand il est temporaire, très souvent, on n'en garde même pas les éléments. Ils sont réutilisés pour un autre projet à nous ou donnés pour faire autre chose ou récupérés par les gens qui nous ont prêté du matériel, par exemple. Donc très souvent, il n'y a plus que la trace, en fait. C'est ça qui compte. Il est évident que quand tu fais ce genre d'approche, tu pars d'une idée que tu as d'un lieu, mais comme on l'a dit tout à l'heure, elle n'est pas déterminée. Donc en fait, elle va évoluer en fonction du temps où tu investis l'espace. En tout cas, je parle pour les installations. Pour les œuvres pérennes, c'est plus long parce qu'on va plus travailler presque sous forme de bureau d'études pour effectivement être bien sûr que les éléments prennent place. Et s'il y a des erreurs, en fait, on va les corriger au fur et à mesure de l'usage du lieu, par exemple. Mais le fait est que quand on fait ce genre d'expérience, on tente des choses qui effectivement jouent sur des fragilités, surtout sur le temporaire, et qui fait qu'en fait, on peut avoir pensé avoir provoqué des points de rencontre à des endroits, et il s'avère qu'il ne se passe pas là. Des fois, c'est très heureux. Des fois, c'est moins réussi, c'est moins abouti. Je ne sais pas si je pourrais raconter une anecdote de choses qui étaient complètement contraires et qu'on puisse réussir. Il faudrait qu'une idée me vienne. Mais oui, forcément, il y a eu des pas de côté qui ont été peut-être moins heureux, on va dire.
Souvent l'erreur a un peu une mauvaise image en fait. Quand on fait une erreur, on se trompe. Je dirais en fait, il vaut mieux faire des erreurs et se tromper pour pouvoir aller chercher là où on a envie d'aller chercher. Et du coup, plutôt que d'erreur, je dirais que c'est plutôt une forme d'expérience et c'est une forme de recherche aussi. Quand on est dans la recherche, on ne sait pas exactement ce qu'on va trouver ou comment on va trouver. On a juste une ligne intuitive qu'on suit. On se dit, je sais que c'est là. Je ne sais pas exactement comment, en fait, on va y aller. Mais on tente ce chemin. Et des fois, en fait, on essaye un truc et ça ne correspond pas à l'idée que l'on a. Donc, c'est marche arrière. Et on essaye autre chose, c'est marche avant. Donc, c'est vraiment une question de recherche aussi, je dirais.
Et le ratage, il est pour la prof de français, là, c'est pour Beckett, non? C'est essaye encore, rate encore, mais rate encore mieux, quoi, en fait.
Certaines relations sont issues d'erreurs, justement. Donc,
oui, très souvent, oui.
Voilà. On va clore l'expérience, l'interview, malgré les nombreuses questions qui restent, mais on ne peut pas poursuivre, je suis désolée. Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était très très bien.
c'est la fin de ce double épisode dédié à l'interview réalisée par les élèves de 6e du collège Saint-Joseph de Lectoure. Tout d'abord, un grand merci à eux, un grand merci à leurs enseignantes qui ont géré le projet, un grand merci aux artistes d'avoir répondu à leurs questions, un grand merci également au Centre d'art et de photographie de Lectoure et au PETR Pays Porte de Gascogne d'avoir fait appel à Radio Fil de l'Eau pour enregistrer ces échanges et pouvoir les diffuser. Les programmes continuent sur les ondes de Radio Fil de l'Eau, 106.6 à Lille-Jourdain et 100.9 à Florence. Une très bonne journée à toutes et à tous.